Il est 8h30 à Paris, à l'écoute d'RFI, 6h30 en temps universel. L'actualité africaine dans RFI Matin. Bonjour Sébastien Duhamel.
Bonjour Nathalie, bonjour à toutes et à tous. Et la une pour nous, cette épidémie de dengue inédite en Centrafrique, déjà 13 cas confirmés par l'Institut Pasteur de Bangui, et des mesures de prévention à recommander, on en parle dans quelques instants. Le Tchad face aux inondations, la capitale N'Djamena déjà les pieds dans l'eau est confrontée à la crainte de voir le niveau des Logone et Chari monter encore sous l'effet des pluies. Dans ce journal également, la reprise des combats qui provoquent de nouveaux déplacements de population sur le territoire de Massissi, dans l'est de la RDC. Et puis la mer des musiques ne doit pas disparaître. Le message du promoteur du festival Feu de Brasa qui s'est refermé hier. 7e édition d'un rendez-vous mettant à l'honneur les musiques traditionnelles des deux Congos. Une dizaine de cas déjà détectés dans la capitale, Bangui. Le gouvernement de Centrafrique annonce donc une épidémie de dengue. Cette fièvre des eaux, parfois appelée grippe tropicale par les experts, dont les symptômes ressemblent à ceux du paludisme causé par le virus du même nom. C'est la première fois qu'elle est signalée, la dengue, en Centrafrique. C'est le ministre de la Santé, le docteur Pierre Somsé, qui tirait hier la sonnette d'alarme. Je vous propose de l'écouter.
L'Institut Pasteur de Bangui a confirmé 13 cas de dengue, dont 7 personnes de sexe féminin et 6 de sexe masculin. La plupart des personnes qui contactent la dengue ne présentent pas de signes de la maladie. Les manifestations les plus courantes sont donc la fièvre, les maux de tête, les courbatures, les nausées, les éruptions cutanées. Et le plus grand nombre des malades se rétablissent en une ou deux semaines. Certains développent une dengue sévère et sont hospitalisés. Nous devons assainir notre milieu de vie, notre environnement. Nous devons assurer la salubrité de notre environnement tous les jours. Le ministère de la Santé et de la Population, avec l'appui des partenaires, a pris des mesures de prévention nécessaires pour empêcher la propagation rapide de l'épidémie sur le territoire national. Mesures basées sur le dépistage gratuit, l'auto-isolement des cas simples, l'hospitalisation des cas sévères, le traitement des cas symptomatiques.
Voilà pour le bilan du ministre centrafricain de la Santé et les mesures préconisées pour lutter contre cette épidémie de dengue. Une maladie pour laquelle il n'existe aucun traitement spécifique à ce jour. Alors la prévention et l'assainissement des eaux stagnantes, entre autres, c'est également ce que recommande le professeur Emmanuel Nakoun, virologue, directeur scientifique de l'Institut Pasteur de Bangui.
La dengue est une maladie infectieuse causée par un virus transmis à l'homme par des moustiques qui pique en journée. Les premiers signes vont être semblables aux signes du paludisme. Ça va d'abord commencer par la fièvre, les maux de tête, des douleurs musculaires, des douleurs articulaires. Mais ce qui est vraiment caractéristique dans le cas de la dengue, c'est une grosse fatigue qui peut durer pendant presque deux semaines. Dans les cas de Bangui, en journée, il faut se protéger, porter des manches longues, des vêtements qui couvrent les jambes. Au jour d'aujourd'hui, il n'y a pas de traitement, il y a de vaccins, mais dans les pays en voie de développement, c'est difficile d'avoir ces vaccins. Donc le seul moyen de lutte, c'est vraiment l'assainissement.
Le professeur Emmanuel Nakoun, directeur scientifique de l'Institut Pasteur de Bangui. En cette saison des pluies, le Tchad, face à la crainte de voir le niveau des eaux grimper encore un peu plus, alors que les inondations frappent le pays depuis près d'un mois. Les quartiers périphériques de la capitale, N'Djamena, ont les pieds dans l'eau et les regards se tournent vers le fleuve Chari et son affluent, la rivière Logone. Dans le 9e arrondissement de N'Djamena notamment, des travaux de rénovation des digues ont été lancés l'an passé, en mai 2023. Mais ils ne sont pas terminés, on en serait à 80% du chantier selon le gouvernement et certains doutent déjà de la fiabilité des infrastructures. Or, la montre tourne. Sur place, reportage d'Olivier Monodi.
Pied dans l'eau à quelque part de la digue en construction, les habitants du quartier Walia regardent autour d'eux avec des arrois. Ils craignent que malgré les travaux engagés et leurs coûts élevés, les ouvrages ne résistent pas à la crue du fleuve. Placide Nasra est enseignant.
On voit que c'est une digue qui ne vaut même pas 22 milliards. Quand l'eau va arriver, ça va partir tout d'un coup. Comment une digue qui est construite en terre battue peut durer?
L'érosion gagne du terrain. La rupture de ce barrage semble probable. Si rien n'est encore fait, estiment les riverains. Le ministre de l'Urbanisme, Mamad Asilek Alata, veut les rassurer. Mais il dénonce aussi certains actes de vandalisme.
Il y a une digue construite à 47 milliards bien avant ça, dans le même endroit, et qui a été balayée en un clin d'œil par les eaux en 2022. Et c'est pourquoi on a pensé faire cette digue route qui aujourd'hui, qu'on le veuille ou pas, bloque les eaux. Effectivement, on a trouvé des gens qui ont voulu sectionner la digue. D'abord, je trouve que c'est dommage. Les actes de vandalisme constatés émanent de quelques individus qui sont appréhendés maintenant.
Cet argument ne fait pas l'unanimité. Ces riverains s'en agacent.
La population a aussi ses raisons. Ces vannes ne sont pas bien construites. La population était obligée de creuser la digue, de faire un passage afin que l'eau soit évacuée.
Les travaux de cette digue ont connu des arrêts faute de financement. L'entreprise de construction affirme qu'ils étaient sur la fin. Elle appelle le gouvernement à clarifier la situation des personnes qui habitent encore sur le tracé du dernier tronçon. Olivier Monodi, N'Djamena, RFI.
Les pluies intenses dans la région qui ont par ailleurs fait céder un barrage au Nigeria en amont de la capitale régionale du Borno, Maïdougouri. Des tonnes d'eau se sont déversées sur la ville. C'était dans la nuit de dimanche à lundi. L'Agence nationale de gestion des urgences fait état de plus de 150 000 personnes touchées au cours des trois derniers jours. Le mur d'enceinte d'une prison s'est par ailleurs effondré, libérant quelques 200 prisonniers, dont des membres de Boko Haram. Le zoo de Maïdougouri alerte également sur l'évasion de crocodiles et de serpents. Les écoles resteront fermées sur place pendant deux semaines. Une situation qui rappelle en tout cas de bien tristes souvenirs. En Libye, un an cette nuit que la tempête Daniel a frappé le pays et entraîné dans son sillage une crise humanitaire importante, principalement dans la ville de Derna, dans l'Est. Officiellement 4000 morts, d'après les autorités, des milliers de personnes disparues. Alors, où en est-on un an après ? Christophe Boisbouvier en parlera après ce journal avec notre invité Virginie Colombier, professeure en sciences politiques à l'université Louis de Rome.
Goma, 98 FM.
De nouveaux combats signalés depuis plusieurs jours et hier encore sur le territoire de Masisi, dans l'est de la RDC. Ils mettent aux prises les rebelles du M23, soutenus par le Rwanda, au Wazalendo, les milices locales alliées quant à elles de l'armée congolaise. Des affrontements violents qui ont provoqué de nouveaux déplacements de population et les habitants craignent une nouvelle offensive des rebelles car certaines sources évoquent l'arrivée de renforts côté rwandais. Alors qu'en coulisses, le processus de médiation de Luanda se poursuit mais patine quelque peu, et qu'une réunion des chefs de la diplomatie congolaise et rwandaise est attendue dans les prochains jours, eh bien, ces renforts pourraient être une arme stratégique dans le cadre des négociations. C'est la lecture d'Onesfor Sematumba, analyste à l'International Crisis Group.
La poussée des tensions fait partie des stratégies des négociations. C'est quand il y a ce genre de négociations que chaque partie essaie d'avancer ses pions. Mais cela dit, les tensions ne se sont jamais véritablement arrêtées malgré la trêve qui a été signée sous l'impulsion des Américains, suivie par ce cessez-le-feu obtenu par les Angolais à partir du début du mois d'août, je pense. Donc, le M23, parce que jusque-là, le Rwanda ne reconnaît pas avoir ses forces sur le terrain, malgré les évidences. Mais en fait, l'occupation de la plus grande partie possible du territoire congolais fait monter les enchères, d'abord en termes d'occupation territoriale, des revendications, évidemment, voilà tout l'agenda qu'ils ont. Ça rentre vraiment dans la logique des négociations, faire pression sur le terrain pour avoir le plus de gains politiques autour de la table.
L'analyse est Onesfor Sematumba. L'est de la RDC, où le mouvement citoyen Lucha indique que le rappeur Delcat Indegko a été transféré hier à la prison de Kangbayi, lui qui avait été arrêté fin août lors d'une manifestation pacifique exigeant le départ de la MONUSCO, la mission de l'ONU. Lui, je vous le rappelle, qui avait été condamné à 10 ans de prison pour outrage au chef de l'État, mais qui avait été finalement libéré en décembre de l'an passé après 2 ans derrière les barreaux à la grâce d'une faveur présidentielle. Le combat de ceux que l'on appelle souvent les métis de la colonisation. Ces enfants nés de couples mixtes entre locaux et colons, arrachés à leur famille par l'administration belge pendant la colonisation du Congo. On estime qu'ils sont entre 14 et 20 000. Un combat mis en lumière par un procès intenté en 2021 contre l'État belge par 5 femmes. Elles ont été déboutées en première instance, mais ont saisi la cour d'appel qui s'est réunie avant-hier et hier à Bruxelles. Leurs avocats y ont plaidé le crime contre l'humanité, ce que conteste l'État belge. Justice en Europe également, en France, où le procès de la Yemenia Airways a donc rendu son verdict sur ce crash survenu au large des Comores en 2009. 152 personnes étaient tuées à cette époque, il y a 15 ans, dont 65 Français. Et la Cour d'appel de Paris a donc confirmé le jugement de septembre 2022, sanctionnant la Yemenia Airways à payer l'amende maximale de 225 000 euros. Elle a aussi ajouté une peine complémentaire que nous explique ce matin l'avocat de l'association des familles de victimes, maître Roman Lebovici.
La Cour est allée plus loin encore que le tribunal. Elle a condamné la compagnie à devoir afficher pour une période de 2 mois le contenu de la condamnation sur des affichages situés dans les aéroports de Marseille et les aéroports de Charles de Gaulle à Paris, qui sont les deux aéroports les plus fréquentés, notamment par la communauté comorienne. C'est relativement rare, c'est d'autant plus justifié que la compagnie se situe à l'étranger. Elle aurait repris du service, déjà plus en Europe, bien évidemment, mais dans des destinations qui sont un peu exotiques, en Inde ou dans certaines îles. Elle a repris des vols commerciaux et donc la compagnie est active, mais n'a plus de vols ni aux Comores, bien évidemment, ni en Europe. Aujourd'hui encore, le Yémen est un pays en guerre. Personne ne va aller s'aventurer pour voir si la décision est respectée et appliquée à l'encontre de la compagnie.
Les explications de Maître Roman Lebovici. Deux rives d'un même fleuve, deux pays, mais une culture musicale commune, ou très proche en tout cas. Les musiques traditionnelles des deux Congo était à l'honneur avec le festival Feu de Brazza, dont la 7e édition s'est refermée hier à Brazzaville. Un rendez-vous pour la conservation d'un patrimoine riche et ancien. Reportage, Loïcia Martial.
Nous sommes dans la cour arrière de la mairie de Mfilou, 7e arrondissement de Brazzaville. Au milieu de ses amis, Eden Mayingidi, 43 ans, est relié à son tam-tam par un fil jaune. Cette vedette de l'association Kibuisaku Congo exprime en rythme son émotion.
La musique traditionnelle, c'est ça notre socle, notre identité. En tant qu'Africains que nous sommes, c'est là où nous tirons les messages laissés par nos aïeux. Donc c'est ça la tradition.
Le soleil se couche, les derniers rayons chauffent les groupes qui jouent pour une foule diversifiée et multicolore. Delor Nzaba, la trentaine révolue, et ses amis apprécient ces moments riches en tout point.
Oui, évidemment, la musique traditionnelle permet à ne pas oublier nos valeurs. Parce qu'on dit en Afrique, oublier sa tradition, c'est perdre complètement ses valeurs. Et lorsqu'on oublie ses origines, la tradition, c'est carrément dangereux.
Mais au moins la musique traditionnelle, c'est la vraie musique où on peut écouter les vraies paroles, les conseils également aussi, qui peuvent nous éduquer pour aller un peu plus loin dans notre carrière. C'est une musique originale.
Si les feux de Brazza se sont éteints hier soir, ils se rallumeront en 2026. Loïcia Martial, Brazzaville, RFI.
Et en attendant que les feux de Brazza se rallument en 2026, on referme cette édition avec le promoteur du festival, Gervais Hugues Ondaille, pour qui c'est indéniable. Oui, le patrimoine musical est partagé sur les deux rives du fleuve Congo et il faut le préserver coûte que coûte. C'est la raison d'être de ce rendez-vous à Brazzaville. Écoutez Gervais Hugues Ondaille.
La RDC et le Congo ne sont qu'un seul pays, culturellement parlant. On a les mêmes langues, l'art culinaire est presque le même. Donc, au fait, le même rythme, on le retrouve dans la RDC et comme au Congo-Brazzaville. C'est la mère des musiques. Il faut savoir que si on parle du postulat que le premier être sur la terre est parti de la musique et que le premier son de l'homme sur la terre, c'est de chanter, parce que pleurer, c'est chanter. Donc, on suppose que la musique est partie de l'Afrique. Et donc, la mère des musiques ne doit pas disparaître. Le problème que nous avons, c'est que cette musique est menacée de partout, avec les nouveaux genres de musique qui arrivent, et elle est reléguée à la périphérie. Et notre travail, c'est de faire en sorte que ces musiques ne disparaissent pas, et d'où le travail de recherche, de documentation et de promotion que nous essayons de faire modestement depuis la création de ce festival en 2005.
Gervais Hugues Ondaille, promoteur du festival Les Feux de Brazza. Un mot rapide avant de vous quitter sur ces membres de la délégation du Congo-Brazzaville pour les Jeux Paralympiques de Paris qui sont introuvables à ce jour. 3 membres qui manquent à l'appel, dont la porte-drapeau du Congo, Mireille Nganga. Une enquête a été ouverte. On retrouve Nathalie Amar pour la suite de notre matinale.